Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter, nous sommes le vendredi 8 octobre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une ce matin, édifiant résultat d'un testing inédit dont France Inter vous dévoile le résultat ce matin. SOS Racisme épingle les agences d'intérim travaillant pour le BTP. Quasiment la moitié d'entre elles acceptent de discriminer à la demande de leurs clients. On voit ça dès le début du journal. Les autres titres, Anaïs.
Après le Brexit, la Pologne fait-elle un pas vers le Polexit ? Décision inédite hier de la Cour constitutionnelle qui rejette les traités européens. Explication de notre correspondante à Bruxelles. À Montpellier, 3000 entrepreneurs, artistes, sportifs africains attendus pour un sommet Afrique-France renouvelé. Le salon de l'auto de Genève encore annulé cette année et la disparition d'un capitaine des médias, Étienne Moujotte, dirigeant de TF1, est décédé hier.
Invité et rendez-vous de votre matinale à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, quel avenir pour Facebook ? 8h20, le grand entretien avec la professeure de philosophie Marilyn Maezo. Elle publie La petite fabrique de l'inhumain, un appel à la lucidité face à l'inhumanité qui guette chacun de nous et fait le lit des grands fléaux de notre époque. Vos questions dès maintenant au 01 45 24. 4-7000.
France Inter. Choisir son ouvrier selon sa couleur de peau dans la construction et le bâtiment, le milieu qui emploie la plus forte proportion de travailleurs étrangers. Ça semble difficile et c'est parfaitement illégal. Et pourtant, quasiment une agence d'intérim sur deux enfreint la loi. Résultat d'un testing inédit réalisé par SOS Racisme que vous révèle ce matin France Inter. Vous allez l'entendre, certaines entreprises acceptent de répondre favorablement aux demandes illégales de leurs clients. Claire Chaudière.
69 coups de fil à des agences d'intérim réalisées en moins d'une semaine pour ne pas se faire démasquer, avec à chaque fois le même scénario, raconte Cilia, l'une des membres de la petite équipe de testing. L'assistante d'une entreprise du BTP fictive dit avoir des consignes très strictes de la part de son patron.
On aimerait, on avait la consigne en tout cas, de recruter uniquement des travailleurs type européen. Et on voulait savoir si c'était possible.
Certaines des réponses sont édifiantes, extraits de conversations réelles, enregistrées. Les voix ont été légèrement modifiées.
J'ai rien entendu, mais je le note. Que là, on rentre dans de la discrimination, je me le note pour qu'effectivement, je puisse vous proposer des profils comme vous le souhaitez.
J'entends votre demande, mais n'écrivez pas.
D'accord, mais vous nous enverrez des Européens.
Exactement. Si on n'a fait aucune trace de ce type d'échange, on peut faire le nécessaire.
Au total, 45% des agences testées ont accepté de discriminer à la demande de leurs potentiels clients. Marie Mescam est la responsable du pôle juridique d'SOS Racisme.
C'est d'autant plus accablant que certaines d'entre elles ont signé une charte qui promeut l'égalité. On n'a pas cherché à les pousser à la discrimination. Si on nous disait non, ça s'arrêtait là. On a beau faire passer des lois, elles ne sont pas vraiment appliquées. Ce n'est pas des lois contraignantes, en fait.
Parmi les enseignes ciblées, Adéco, épinglée il y a 20 ans et renvoyée en correctionnel récemment dans une affaire de fichage ethnique, récolte cette fois une excellente note. Aucune de ces agences n'a été prise en faute.
Adéco, bon élève donc, à l'opposé de Proman, Ergalis et Morgan Service, 60% de ces agences échouent au testing. Résultats et documents sonores sur franceinter.fr. Testing réalisé au téléphone en mai dernier. Une enquête ouverte par le parquet d'Evry après la révélation d'une centaine de faits de harcèlement sexuel, d'agression ou de viol l'année dernière au sein de l'école d'ingénieurs centrale Supélec. C'est la direction elle-même qui avait demandé à une association de lutte contre le sexisme de lancer une enquête auprès de 2400 élèves. Sous le choc du résultat, le directeur de l'école a alerté la justice. Mardi, 14h, l'heure du rendez-vous du ministre de l'Intérieur avec le patron des évêques de France. L'occasion, dit Éric de Moulin-Beaufort dans un communiqué, de rappeler que le secret de la confession n'est pas contraire au droit pénal français. La déflagration du rapport Sauvé dans l'Église, vu par les jeunes, ce sera tout à l'heure dans un reportage dans le journal de 7h30. Voilà une autre déflagration dont la mèche est allumée mais qui n'a pas encore complètement explosé. Nouvelle étape du bras de fer entre Varsovie et Bruxelles, avec la décision de la plus haute juridiction polonaise hier qui prépare le terrain d'un Polexit. Le tribunal constitutionnel composé uniquement de juges nommés par le parti conservateur au pouvoir, a dénoncé la suprématie du droit européen sur le droit polonais. C'est bien sûr contraire au traité. À Bruxelles, cette décision est vécue comme un séisme. Angélique Bouin.
Un juge polonais, c'est aussi un juge européen. Il ne peut pas être soumis à un pouvoir en place, rappelle régulièrement le commissaire européen à la justice. Nous ne resterons pas sans réagir, a déclaré hier soir le belge Didier Reynders.
C'est la remise en cause d'un certain nombre de principes qui fondent notre Union. Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour faire en sorte que les principes fondateurs de l'Union soient respectés.
Pour les eurodéputés, très mobilisés pour défendre l'état de droit et l'indépendance de la justice en Pologne, la Commission doit maintenant taper fort et au porte-monnaie. Elle n'a toujours pas validé le plan de relance polonais. C'est ce levier qu'il faut utiliser sans tarder, estiment nombre d'élus, dont l'eurodéputée française du groupe des Verts, Gwendoline Delbos-Corfield.
Les procédures d'infraction, aller à la Cour européenne de justice pour répliquer et puis on rentre dans un système, ça va prendre des années. Il est temps aussi de montrer un rapport de force. Et comme ils ont besoin de cet argent, ça a un véritable impact.
C'est parce que l'Union européenne a menacé de ne pas leur verser certains fonds de soutien, rappelle-t-elle, que trois régions polonaises ont récemment renoncé à devenir des zones sans idéologie LGBT. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et à noter que plus de 80% des Polonais soutiennent toujours l'adhésion à l'Union européenne.
France Inter, 7h06, donner un coup de jeune à la relation de la France avec l'Afrique.
Oui, c'est l'objectif affiché par l'Élysée à quelques heures de l'ouverture à Montpellier du sommet Afrique-France. Pour la première fois depuis 1973, aucun chef d'État du continent n'est invité, mais de jeunes entrepreneurs, des artistes, des sportifs africains. Comme elle l'avait annoncé il y a 4 ans à Ouagadougou, la France veut que la jeunesse africaine prenne en main son destin. Le reportage à Montpellier de Bertrand Galichet.
Venue de Madagascar, Marie-Christine Collot se définit comme écoféministe, entrepreneur sociale et activiste climatique. Fondatrice en 2016 de l'ONG Green and Cool, qui réinsère dans des emplois verts des personnes vulnérables, la jeune femme croit aux initiatives citoyennes pour rapprocher la France et l'Afrique, mais sans naïveté.
La société civile est impliquée et va essayer de réinventer les modalités de ces sommets Afrique-France. Ça nous fait un peu peur en même temps, on n'a pas envie de se sentir utilisé par justement des personnes qui se disent ce sera plus facile de manipuler des acteurs de la société civile plutôt que de parler avec des dirigeants.
La France mise sur l'engagement citoyen, l'innovation, la culture et aussi la pratique sportive. Français né au Nigeria, Dawari Orsfal fait la promotion des sports urbains portés par les réseaux sociaux.
C'est important en fait que la base puisse s'exprimer sans l'autorité entre guillemets du politique. Ça permet d'avoir un parler franc.
Il faut absolument que ce soit la France qui organise ces rencontres pour que les Africains puissent se parler.
C'est malheureux, mais on va dire que c'est un premier pas pour que ensuite les Africains puissent prendre des choses en main.
Parmi les 3000 participants attendus aujourd'hui à ce sommet, beaucoup découvrent la France pour la première fois. Montpellier, Bertrand Galichet, France Inter.
Et les intellectuels du collectif panafricain Cora critiquent une société civile taillée sur mesure de l'Afrique qui réussit. Selon nos confrères de France Info, Emmanuel Macron annoncera cet après-midi 30 millions d'euros sur 3 ans pour soutenir la société civile africaine. Un puissant séisme a touché la région de Tokyo au Japon cette nuit, magnitude estimée à 6,1. Tremblement de terre ressenti dans une grande partie est du pays. La voiture a-t-elle encore de l'avenir? C'est une vraie question qui commence à tarauder les plus accros. Secteur industriel en difficulté en France, immatriculation de véhicules neufs en chute libre et ce symbole, après 2 ans d'absence dû au Covid, le Salon de l'automobile de Genève annonce qu'il annule son édition 2022. On attendra donc 2023. Fabien Cazot, les organisateurs parlent de temps incertains.
Jusqu'à 8 mois d'attente dans les concessions pour les livraisons de certains modèles, c'est la conséquence directe des pénuries de composants électroniques qui paralysent la planète automobile. Renault et Stellantis sont bien sûr concernés dans leurs usines françaises mais aussi à l'étranger. Opel, filiale allemande de Stellantis, met à l'arrêt une de ses usines allemandes jusqu'au début de l'année prochaine. L'emblématique berceau de Volkswagen à Wolfsburg s'arrête lui pour 2 semaines, tandis que Ford suspend la production de sa Fiesta à Cologne pour tout le mois d'octobre. Toutes marques confondues, près de 8 millions de voitures programmées dans les plans de production n'auront finalement pas été fabriquées cette année. Du côté de la demande, les voyants sont aussi au rouge. Les derniers chiffres du marché français pour septembre montrent un effondrement des ventes de véhicules neufs, moins 20%. De plus en plus d'automobilistes préférant se reporter sur le marché de l'occasion.
Le Conseil scientifique s'inquiète du relâchement des mesures barrières et du déremboursement des tests à partir du 15 octobre. Dans son dernier avis que France Inter a pu consulter, le Conseil préconise une sortie du pass sanitaire entre le 15 novembre et la fin de l'année, mais avec une phase de préparation pour analyser l'impact des températures plus froides qui vont arriver. Les obsèques de Bernard Tapie ce matin à Marseille, 11h à la cathédrale de la Major. Hier, 3000 supporters de l'OM ont rendu hommage au stade Vélodrome à l'homme d'affaires décédé dimanche. Autre figure médiatique marquante des années 80 et 90, Étienne Moujotte, ancien dirigeant emblématique de TF1. Il est décédé hier soir à l'âge de 81 ans. Il avait fait de TF1 la première télé d'Europe et on lui doit, Alexandra Akoun, la première chaîne d'info en continu.
3, 2, 1, Top LCI.
Lorsqu'il lance LCI en juin 1994, Étienne Moujotte a déjà derrière lui un solide parcours. Dès la fin des années 60, reporter à Paris-Normandie, France Inter. 1974, ce natif de Charente-Maritime passé par Sciences Po débarque à Europe 1 comme patron de l'info. Et bien sûr, dès 1987, TF1, le nouveau propriétaire de la chaîne, Francis Bouygues, est séduit par sa vision d'une télévision populaire et de qualité. Aux côtés de Patrick Lelay, il prend la direction des programmes. TF1 atteint des sommets, plus de 30% de part d'audience. Première chaîne d'Europe, son ami et ancien directeur de l'information de TF1, Robert Namias.
Pendant 20 ans, il a fait un couple formidable avec Patrick Lelay, mais Patrick Lelay le disait lui-même. Il laissait une totale liberté à Étienne pour imaginer les programmes, concevoir le programme, et il a fait évoluer ses programmes. On lui a reproché parfois des émissions très grand public, certaines trash, franchement, c'est de l'eau de rose à côté d'aujourd'hui.
Peut-être, mais ses incursions dans le trash lui valent d'entrer au guignol de l'info. Son duo Good Cop Bad Cop avec un Patrick Lelay débridé y fait des merveilles, comme en 2006 au moment du lancement de l'émission Nice People.
Vous faites tout pour qu'ils couchent les uns avec les autres, donc.
Non, Patrick, pas de vulgarité. Mais ce sont des jeunes gens en pleine force de l'âge, il arrivera ce qui doit arriver.
Et si ça arrive pas, on foutra du Viagra dans le jus d'orange.
Moqué, mais jamais détrôné.
Ils ont été renversants hier soir. Les footballeurs français menaient 2-0 par les Belges après une heure de jeu en demi-finale de la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps l'ont finalement emporté 3-2 et rejoignent l'Espagne en finale dimanche à Milan. Allez, on prend le large et le froid. Aventure hors du commun que va vivre une jeune boulangère pâtissière bretonne de 19 ans. Elle va s'embarquer pour l'une des bases scientifiques françaises les plus reculées, celle de Dumont-d'Urville en Antarctique. Martin Delacoux.
Zoé Boucard finissait ses études de pâtisserie à Rennes l'année dernière, quand elle a vu passer l'offre de l'Institut Polaire de Brest.
Ça fait 4 ans que je me forme en boulangerie-pâtisserie, on va dire de boutique, et j'avais une petite envie de changement parce que on en revient des fois un peu toujours au même.
Le changement a commencé dès la sélection, elle a dû passer des tests médicaux et psychologiques, elle sera en service civique, donc indemnisée pendant la mission. Le but de son travail va aussi changer, plus de clients, mais une équipe technique et des scientifiques à nourrir et à soutenir quand viendra le blues de l'hiver.
C'est une petite pression et en même temps, ça fait partie de mon métier de donner du réconfort aux gens avec des gâteaux et tout ça. Donc, je pars avec des recettes de cookies, des tartes, des choux, plein de choses un peu gourmandes.
La jeune boulangère du Morbihan espère sortir des cuisines pour donner un coup de main pour certaines missions, en particulier pour étudier les manchots, nombreux aux alentours de la base. C'est là que le film documentaire La Marche de l'Empereur a été tourné.
C'est un grand rêve de pouvoir assister à tout ça. À la naissance des poussins, à la mise à l'eau.
Zoé Boucard va quitter le domicile familial le 27 octobre et son voyage pour la Terre Adélie va durer près d'un mois.
Et puis 329 candidatures déposées cette année pour le Nobel de la paix. Peut-être une femme récompensée ce matin à Oslo depuis lundi. Seuls des hommes ont été lauréats.
Résultat dans nos éditions de la mi-journée. Anaïs Feugat pour le journal.